sur les OGM. Dans le reste du monde, voilà, la Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision pour classer les plantes obtenues grâce à des nouvelles technologies, grâce à la mutagénèse, comme des OGM. Et donc maintenant, l'Europe et les États membres devraient classer ces nouvelles semences comme OGM. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas encore fait. Ils se renvoient la balle entre les uns et les autres. Donc nous, on attend à ce que le Parlement européen prenne ça. Après, c'est oui, mais je vais pas vous dire moi en tant que porte-parole de la conf pour qui voter. On entend bien. Enfin, il me semble que quand je parle d'aide à l'actif, quand je parle de transition environnementale, quand je parle de reconnecter agriculture et alimentation, on est plutôt d'un côté de l'échiquier politique que de l'autre. Donc voilà, moi il me semble que c'est assez clair. Après, il y a quand même peut-être pas une multitude, mais plusieurs listes qui sont sur ces idées-là. Et après, j'allais dire, l'avantage des élections européennes, c'est qu'on est sur un scrutin proportionnel, et à partir du moment où ils atteindront 5%, ils auront des élus. Et j'allais dire, on peut espérer que si on a des élus écologistes, si on a des élus insoumis, si on a des élus PS, si on a des élus de communistes, eh ben on peut peut-être espérer que sur ces valeurs-là, ils soient capables de travailler ensemble et d'avancer à une construction européenne qui rejoigne ces enjeux-là. L'agriculture, quoi. Donc voilà, pour être très clair et transparent, hein, Jérémy De Serve, qui est quatrième sur la liste En Marche, la liste Renaissance, c'est l'ancien président des jeunes agriculteurs, qui était président jusqu'à il y a encore quelques mois. Ah, le volume de paysans en Europe, ouais, pardon. Pour moi, on est un peu plus qu'en France, parce qu'il y a des agricultures de l'Est de l'Europe où il y a encore un bon paquet de petits agriculteurs. On est aux alentours de, à mon avis, 4% de la population active en Europe. Donc c'est très faible et on n'a pas de députés, enfin à ma connaissance, il n'y a pas d'eurodéputés paysans ou agriculteurs, mais même dans d'autres pays. Des gens connectés au monde agricole, oui, il y en a, mais vraiment connectés, enfin, vraiment paysans, ça n'en a plus, quoi.
Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, je voulais te remercier pour l'exposé. Je pense que tout a été posé globalement. Et je n'ai pas spécialement de questions à formuler. Ceci dit, moi j'invite les paysans et les paysannes à voter insoumis. Très clairement, c'est le parti qui nous défend le mieux. Moi je fais partie de ces gens qui n'ont ni PAC, ni quoi que ce soit. Ça fait 7 ans que je suis installé et je fais partie de ces gens. Ça fait 3 ans que je n'ai plus de déclaration PAC. Voilà, pour vous dire, c'est tellement emmerdant. Et puis pour toucher rien du tout à la fin, je suis dans mon champ tout seul et j'ai l'impression d'être vraiment humilié.
Merci. Monsieur vient de dire, pour percevoir pas grand-chose, quand même, la PAC pour la France, de mémoire, elle représente 9 milliards 100 millions, et pour 450 000 agriculteurs. Alors, le calcul est simple, hein. Vous divisez 9 milliards 100 millions par 450 000, et ça fait 20 000 euros par exploitant. Pour entendre que l'insatisfaction toujours grandissante du monde agricole, ça fait 20 ans que c'est la même situation, l'argent est dépensé, et malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose.
Si on prend, c'est relativement simpliste de poser la chose comme ça. On peut, enfin, il y a un paquet de paysans comme toi qui touchent zéro de PAC parce qu'ils sont sur des petites surfaces, parce qu'ils ont pas suffisamment de surface pour toucher de la PAC. Il y en a une grosse partie qui touche des soutiens qui sont faibles et pas suffisants, j'allais dire, pour leur permettre de développer une agriculture qui réponde vraiment à ce qu'on attend ici, à une alimentation de qualité, à des territoires dynamiques, etc. La PAC, elle est accaparée par une minorité de gros agriculteurs parce que elle est liée aux surfaces. Donc à partir de là, si on fait pas bouger ce curseur-là, bien sûr qu'ils seront tous toujours insatisfaits. Parce que on a des revendications pour arriver à réorienter les fonds de la PAC de manière plus équitable, plus logique, au vu notamment de l'emploi. Enfin, c'est quand même ahurissant que la France dépense, parce que c'est les citoyens français, c'est l'État français qui dépense pour ces 9 milliards qui retombent au niveau français, c'est les impôts des uns et des autres, et ça a comme effet un plan social de l'agriculture. Ça, c'est quand même ahurissant, quoi. On paye pour mettre des gens au chômage. On paye pour faire une alimentation qui ne correspond pas aux attentes. On paye pour détruire l'environnement. On paye pour avoir pas cher dans son assiette quand on achète, mais on leur paye avec ses impôts, on leur paye avec les dépollutions qu'il y aura besoin pour l'eau, on leur paye avec les problèmes de santé. Enfin voilà, à un moment donné, la PAC, elle est complètement insatisfaisante parce qu'elle elle oriente le modèle agricole dans une direction qui n'est pas la bonne.
Justement, pour la nouvelle PAC, est-ce que le plafonnement des aides est à l'ordre du jour, au niveau des surfaces en particulier, bien sûr.
Le plafonnement des aides, il se, pour l'instant, comme ils le mettent, il se ferait par actif. Il ne se ferait pas forcément au niveau des surfaces, il se ferait par actif. Sauf qu'il se ferait, comme j'en parlais tout à l'heure, et la Commission l'a mis au niveau de 100 000 euros par actif. Donc autant dire que ce n'est pas un plafonnement, ça plafonne presque personne. Si on arrive au moins à descendre, le Parlement avait une proposition à 60 000 euros de plafonnement. Nous, notre proposition est à 45 000. Si on arrivait déjà à avoir un plafonnement à 60 000 euros, on arriverait à raboter une partie. Après, faut aussi savoir ce qu'on en fait, quoi. Ce qu'on rabote, comment est-ce qu'on le redistribue? Est-ce qu'on le redistribue sur plus d'actifs? Est-ce qu'on le redistribue sur une transition environnementale, sur une transition alimentaire? Enfin, il y a l'enjeu du budget qui est important. Du budget total et puis de comment on le répartit, mais surtout il y a l'enjeu des objectifs, quoi. C'est-à-dire que on aurait beau avoir un gros budget, si on continue à avoir des objectifs sur produire plus à moins cher avec moins d'actifs, bon ben on peut toujours mettre 9 milliards, 10 milliards, 12 milliards, ça répondra en rien à nos attentes. Donc moi j'allais dire 9 milliards c'est largement suffisant si on a des objectifs qui sont sur ce que j'ai pu développer, sur une transition sociale, alimentaire et environnementale. Avec 9 milliards, on fait largement ces objectifs-là. Alors vous l'avez dit, si on divise 9 milliards par le nombre de paysans actuels, on arrive à 20 000 euros. Avec 20 000 euros par exploitant, on peut arriver à bouger les curseurs et à faire bouger des choses. Donc le tout, voilà, on n'est pas à vouloir diviser la PAC par le nombre de paysans, mais on est à la redistribuer de manière un peu plus équitable, un peu plus satisfaisante, et à partir de là, donner les moyens aux paysans de se dire, pendant 10, 15 ans, on m'a dit, faut produire plus, faut produire moins cher, et faut avoir des hectares, et ben maintenant, on me dit, il faut produire mieux, il faut me reconnecter avec les demandes alimentaires, il faut réinstaller du monde sur ma ferme ou à côté, donc c'est-à-dire partager du foncier, et ça, je serai valorisé pour ça par la PAC. Ben, s'ils sont valorisés pour ça par la PAC, ils vont le faire. Il y a différents temps. Il y a eu le temps, la Commission a fait une proposition qui a été plus ou moins validée par le Parlement européen. Il y a eu quelques amendements. Nous, on a participé, on a fait aussi des amendements à la Commission européenne. On a rencontré la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne pour amener nos amendements à la première mouture, au gros projet global de la PAC. Ça, c'est le projet européen. Ensuite, il y aura des déclinaisons françaises et de chaque pays. Et chaque pays doit construire aussi ce qu'ils appellent son plan stratégique. En gros, quels objectifs la France veut à la PAC et qu'elle ira défendre ensuite à Bruxelles devant la Commission. Et ensuite, la discussion se fera ce qu'on appelle un trilogue entre le Conseil des ministres, le Parlement européen et le commissaire européen, la Commission. Mais avant ça, il faut que la France et les différents pays se mettent d'accord sur une mouture commune. Et il faut donc travailler ces plans stratégiques, et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau français. On a rencontré, on commence depuis un mois, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, à rencontrer le ministère sur des réunions en bilatéral, un syndicat avec, pas le ministre, mais l'administration du ministère pour voir aujourd'hui la PAC, voilà, elle, les aides premier pilier, elles sont orientées comme ça, qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous aimeriez, comment est-ce qu'on fait? Et on pose tout sur la table, on discute, on négocie. Donc là, on est dans juste une phase de proposition avec l'administration du ministère qui discute avec tous les syndicats, qui va discuter aussi avec la plateforme pour une autre PAC, avec les ONG environnementales, de solidarité internationale, etc. Et à partir de ça, ensuite, il y aura des discussions plus en bilatéral, mais en conseil avec le ministre qui préside les différents syndicats agricoles et les différentes ONG. Et ensuite, c'est le ministre qui tranche. Le ministre ou plus haut. Hein. Après, on a un petit peu des difficultés à savoir si ça se joue au ministre, à l'Élysée ou à Matignon. Mais ensuite, c'est lui qui tranche. Et à partir de là, ils vont porter ça à la Commission européenne. Et après, rebelote, au niveau de la Commission européenne, il va y avoir une bataille de tranchées entre ce que va amener la France, ce que va amener l'Allemagne, ce que va amener les pays du Sud, etc. Et comment est-ce qu'on arrive à un consensus qui soit un peu satisfaisant pour tout le monde. Là-dessus, par contre, sur ce niveau-là, on a beaucoup moins, nous, Confédération Paysanne, de levier. On a un levier par la structure européenne de la Confédération Paysanne, qui est la Via Campesina européenne, qui rencontre le commissaire européen, qui peut rencontrer les parlementaires, qui peut rencontrer au moment des conseils des ministres, les ministres européens. Mais c'est beaucoup plus compliqué une fois que c'est parti du niveau français. Pour nous, le gros enjeu, c'est d'arriver à avoir une influence forte sur, aujourd'hui, l'administration du ministère, qu'elle entende ces revendications-là d'une PAC plus sociale, d'une PAC qui réponde aux enjeux territoriaux. Et j'allais dire, on peut pas le faire tout seul. C'est pour ça que c'est important d'être dans la plateforme pour une autre PAC, parce qu'on porte les mêmes genres de revendications. Mais par contre, le panel qui le porte est beaucoup plus important que juste la Confédération paysanne. Et c'était presque le seul intérêt que j'ai vu aux États généraux de l'alimentation. Quand on a débattu pendant les débats des États généraux de l'alimentation, tout le monde était autour de la table. Les syndicats agricoles, les consommateurs, les distributeurs, les transformateurs, des politiques. Et on a réussi, moi pour la première fois, à mettre la FNSEA en minorité dans bon nombre de débats. Ça n'a pas abouti à une loi satisfaisante, mais je veux dire, on sent que le rapport de force de la FNSEA dans le monde agricole, lui, est encore favorable. Mais quand on élargit ce débat-là à autre chose que le monde agricole, eh ben ils sont quand même beaucoup plus mis en minorité et mis en position délicate. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive, avec des forces convergentes, à faire que le ministère entende ça dans les mois ou l'année qui vient, parce que l'enjeu, il est que la position française, ce que porte la France, c'est quand même vachement attendu par Bruxelles. C'est-à-dire que ce que va porter Didier Guillaume au niveau de la Commission européenne, je dis pas que ça va être tout repris au niveau de la PAC, au niveau de la PAC commune européenne, mais la France a un poids énorme au niveau agricole européen. Donc si on arrive vraiment à influencer le choix de l'administration du ministère, on peut espérer tirer quelque chose. Alors après, tout ce qu'on a dit là, plafonnement, dégressivité des aides, aide aux premiers hectares, petites fermes, transition, il va falloir faire des choix à un moment donné, clairement. On ne pourra pas gagner sur tous les leviers. Et c'est là où il va falloir être intelligent et il va falloir arriver à sonder et puis avoir ce qui est possible et puis ce qui n'est pas possible, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, et puis arriver à enfoncer le clou collectivement sur ces enjeux-là, quoi.
Alors, moi, ma question, c'était, est-ce que, c'est une question assez ancienne, est-ce que le fait de se battre pour un budget agricole, pour des aides, des primes aux paysans, ne bloque pas le revenu par le prix payé aux paysans? C'est-à-dire, est-ce que le fait de revendiquer des aides ne bloque pas le prix agricole juste qui doit rémunérer le paysan?
Je pense que si on reste, bah c'est une question importante, hein, mais si on reste dans une PAC comme elle est orientée actuellement, oui. Se battre pour des aides à l'hectare, plus sur telle culture ou telle, sur plus sur telle zone ou où est-ce qu'on va favoriser ou non telle productivité ou niveau d'intensification. Là, oui, on n'est pas du tout sur des aides qui permettraient un meilleur revenu. Après, il faut voir la PAC plutôt comme un levier, justement, pas forcément pour s'en passer à terme, mais pour arriver à en être moins dépendant. Et notamment les outils de régulation, de maîtrise des marchés, c'est pas quelque chose qui coûte, c'est quelque chose qui coûte moins cher à réaliser que les subventions à l'hectare ou les subventions à l'exportation comme c'est actuellement. Et qui est plus du tout activé parce que il faut libéraliser les marchés et parce que il faut aller exporter et parce que la vocation exportatrice de la France et de l'Europe c'est quand même quelque chose donc il faut pas s'arrêter hein. Mais si on réengage des politiques de régulation, on peut espérer justement avoir un prix qui serait plus important et être moins dépendant de ces subventions directes. Et c'est tout l'enjeu d'être moins dépendant de ces subventions directes. Pour que on oriente plus de subventions vers le second pilier, qui sont des aides à la transition, qui sont des aides à l'environnement, qui sont plus des aides aux revenus, mais qui sont des aides à la transformation du modèle agricole, quoi. Et moi, je vois plus la PAC comme une boîte à outils, comme un levier pour transformer le modèle agricole. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une béquille sur laquelle les paysans sont obligés de se poser parce qu'ils n'ont pas de revenus. Il faut que ça devienne un moyen de réguler des marchés et de retrouver un niveau de revenu plus adéquat, de sortir de cette course à la compétitivité et au prix bas, parce que on est dans cette course-là, on y arrive à y être parce qu'on a des subventions, justement. Si on les avait pas, on pourrait pas le faire. Donc arrêter de majoritairement tourner les subventions là-dedans et petit à petit les réorienter vers le changement de modèle, vers les actifs. Et à partir de là, on peut espérer en être moins dépendant. Mais c'est un cheminement, sûrement au long cours et qui va pas se faire, même en 6 ans ou 7 ans d'une future PAC. Mais c'est pour moi ça, c'est sortir de la dépendance. C'est typiquement sur les aides couplées. Aider à développer des filières ou des productions qui sont pour le coup pour l'instant plus rémunératrices et d'arriver à inciter les paysans à aller sur ces démarches-là, sur ces marchés-là. Et si les aides nous aident à aller dans cette direction-là, après on est moins dépendant du système, quoi.
Tu parles de régulation des marchés, mais il faut quand même expliquer quelque part que la régulation des marchés, ce qui était le principe de la PAC jusque dans les années 90, a conduit quand même à de la surproduction, parce que cette régulation, en fait, donnait un niveau de revenu, un niveau de production intéressant aux paysans qui se sont... tous à cette époque-là, on produit au maximum, la technique est dans de plus en plus, et au bout du compte, on se retrouve avec un système où ce n'était plus gérable de soutenir le marché pour réguler les prix, parce que ça induisait la surproduction. Donc c'était un système aussi qui était dans le n'importe quoi, on a essayé de coupler ça avec la période des quotas, parce que ça avait été fait plus sur le lait, ce qui a permis de perdurer jusqu'à ces dernières années un prix du lait qui était, on va dire, un petit peu mieux que le prix sur marché libre, puisqu'on l'a vu quand il y a eu suppression des quotas. Donc, ce système de régulation, il n'est pas non plus absolument top. Il ne peut pas être sans le système aussi de régulation des volumes ou de régulation des territoires.
Quand je parle de régulation, je mets également bien sûr la régulation des volumes et la maîtrise des volumes avec. Ça va de pair. Ça va de pair. Il faut absolument, s'il n'y a pas ça avec, aujourd'hui la revendication qu'on a au niveau du lait, c'est pas de revenir forcément au quota, c'est on pousse au niveau européen ce qu'on appelle un tunnel de prix. C'est-à-dire, pour l'expliquer rapidement, le prix monte, le marché est porteur, on peut produire jusqu'à un certain niveau, mais entre guillemets, les vannes de production sont un peu ouvertes. Ça permet, le prix est porteur, il faut arriver à mutualiser une partie de ce prix-là, que la filière dans sa globalité mutualise une partie du bénéfice, j'allais dire, pour s'en servir en cas de coup dur. On mutualise ça. Quand le marché est moins porteur, le prix redescend. À partir du moment où il arrive à un certain niveau, on est sur une démarche de réduction des volumes volontaire. Donc, tel ou tel pays active la mesure de régulation des volumes de manière volontaire ou ne l'active pas. Et si ça continue à descendre, on est sur une régulation des volumes obligatoire, avec des indemnisations qui sont cofinancées par les États, par la Commission européenne et par les filières, parce qu'on peut espérer qu'en période de bon prix, si on a mutualisé, c'est ça qui doit nous permettre de redonner, j'allais dire, une partie de ces bénéfices-là à un autre moment. Mais bien sûr que ça va avec une maîtrise des volumes, c'est obligatoire. On ne peut pas espérer réguler les marchés si on ne régule pas les volumes. Et ça, le monde paysan a du mal à l'entendre. Moi, je sais de quoi je parle. Même nous, en comté, on est bien payé, entre autres parce qu'on est régulé, mais les paysans chez nous aimeraient avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire être bien payé et pouvoir continuer à s'agrandir, quoi. À un moment donné, on peut pas tout faire. Nous, on arrive à être bien rémunéré et à bien vivre avec une ferme à deux avec 40 vaches, parce que la filière Comté a fait le choix de limiter les volumes. Après, on nous dit, oui, mais vous ne répondez pas à tous les marchés. Ben non, on ne répond pas à tous les marchés. Ben justement, on ne répond pas à tous les marchés. Enfin, moi, je ne suis pas économiste, hein, mais il me semble que quand justement on ne répond pas à tous les marchés, tu crées une tension sur certains marchés et normalement, le prix monte. Si tu réponds à tout, tu es tout le temps partout, il y a de l'abondance, en général, le prix descend. Voilà, bon.
J'ai une question sociale par rapport aux effets de la transformation du monde agricole qui devient finalement de plus en plus industrialisé, je pense aux énergies durables, etc. Je parle beaucoup sur l'hyper-ruralité, 5% du territoire, 25% du territoire, 5% de l'habitat. On assiste à l'industrialisation des zones rurales, hyper-rurales, que ce soit dans les Garons ou ailleurs, avec une nécessité pour les paysans de changer de métier. Qu'en pensez-vous ? C'est-à-dire, au changement de la fin du monde des paysans.
Merci. C'est un risque qu'on a pointé et qu'on pointe encore. C'est sûr que avec à la fois l'industrialisation, on va pouvoir répondre à des marchés et à des volumes avec moins d'actifs et pas avec des paysans, avec des entrepreneurs, avec des salariés payés à coup de lance-pierre et on ne sera pas dans un monde de paysans, on sera dans un monde d'entreprise, d'entrepreneuriat. Et à côté de ça, les paysans qui voudront développer leur marché seront soumis forcément à la concurrence de ces industries et pourront pas continuer à se développer. Ou alors à se développer dans des niches, dans du circuit court, dans de la vente directe et c'est pas satisfaisant parce que ça, on sera que sur une minorité et sur une petite partie de la population et on ne satisfera qu'une, on ne répondra qu'à une petite partie de l'objectif d'alimentation de qualité de la population. Donc c'était tout le discours qu'on avait sur l'industrialisation, de se dire, c'est ce que nous avait dit Le Foll, l'industrialisation, il faut bien une industrie agricole pour fournir à bas coût les gens qui n'ont pas d'argent pour se fournir une alimentation de qualité, quoi. Donc est-ce qu'on veut aller là-dedans ou pas? Nous on veut pas du tout aller là-dedans. Il nous semble que il faut bannir cette industrialisation, mais pour ça il faut englober pas seulement les enjeux du monde paysan, mais les enjeux de ruralité, parce qu'il nous semble que plus on aura de paysans, plus on aura de vie dans les villages. Plus on aura de vie dans les villages, plus on aura d'écoles, plus on aura de services publics, plus on aura de gens qui reviendront à la campagne et qui auront envie de s'alimenter localement et de faire vivre le paysan autour. Alors que là, on est plus dans un schéma inverse de disparition de tout ça et le monde paysan qui va avec, quoi. Je veux dire, j'ai pas vraiment de solution, mais c'est une des questions qu'on se pose c'est une des questions qu'on a essayé de soulever dans le dernier rapport d'orientation sur cet aspect territoire, lien au territoire et entre territoire et monde paysan, et comment est-ce qu'on peut voir le métier de paysan comme un métier d'utilité publique, qui soit pas seulement fournisseur d'alimentation ou pire de matières premières pour l'industrie agroalimentaire, mais il est peut-être le facteur premier de la ruralité et de la sauvegarde d'une certaine idée du territoire, quoi. Enfin, moi, mon père se présentait comme paysan quand c'était pas à la mode de s'appeler paysan. Et moi, je suis assez attaché à ce mot-là. Enfin, c'est juste de la sémantique, mais le paysan, c'est quelqu'un qui vit au pays, qui fait travailler le pays. Et moi, je trouve que c'est important de revenir à ces fondamentaux-là et de dire qu'on n'est pas uniquement là pour produire de l'alimentation, on est aussi là pour participer à une dynamique territoriale et nous s'en servir, mais faire bénéficier aussi tout le territoire, quoi.
C'est un petit peu ancien comme définition du paysan, hein.
Oui, c'est un peu ancien, mais je pense que notre projet d'agriculture paysanne est beaucoup plus moderne que le projet d'agriculture productiviste ou intensive qu'on nous sert à longueur d'année.
Ouais, alors moi, je voulais intervenir aussi pour dire tout à l'heure, quand tu as cité les deux députés européens français, tu l'as peut-être oublié, qui sont aussi paysans, quand on est plusieurs à les connaître ici, évidemment.
c'est la vieille aussi. Je m'excuse, mais c'est vrai que, bon, moi ça fait juste 2 ans sur le secrétariat national et José, on a eu beaucoup de mal à le voir pour travailler avec lui sur la PAC.
Mais bon, alors c'est. Donc on est bon, mais, pour le connaître, c'est pas pour faire ça.
Mais t'as raison.
Il faut faire son apologie, on sait qu'il a ses qualités et ses défauts. Mais justement, il avait travaillé sur un truc qui était pas trop mal, c'est parce qu'on assiste à une privatisation du droit sur les semences, avec la RGT ici localement, mais d'autres. Et on n'aurait plus le droit pour justement faire de l'alimentation de qualité plus loin des jeunes, ici, donc qui veulent s'installer en maraîcher ou autre, de vape certaines tomates anciennes, par exemple, variétés, voilà, qui sont hors droit, qui sont hors catalogue, voilà. Et il semble que, sauf si je me trompe, qu'il y avait une loi apparemment qui avait réussi à passer au niveau européen pour accorder cette liberté justement sur les semences, qu'on ne soit pas obligé de passer tout ça, et qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel français. Alors, je ne connais pas la Constitution française par cœur, mais je n'ai pas vu où c'était anticonstitutionnel de vendre des semences hors catalogue. Ce n'est pas écrit, je crois, pas dans la Constitution. Donc, dans quelle mesure, finalement, quand on aurait une loi européenne, on arrive à s'accorder et qui irait plutôt dans l'autre sens, le droit européen n'est finalement pas supérieur, puisque lorsqu'il arrive au niveau français, donc au niveau de l'État membre, il est censuré, pour le coup, donc on pourrait tous en bénéficier. Et là, pour le coup, il est censuré au niveau français.
J'ai pas les éléments exacts, mais t'as raison sur les faits par rapport au problème des semences. On en est là aujourd'hui avec une difficulté, voire une impossibilité et une pression qui est mise sur le monde paysan pour travailler avec des semences anciennes ou simplement retravailler en autonomie avec ce qu'il a produit. Et le fait que ce soit décliné à chaque fois au niveau français, enfin au niveau des États, c'est quelque chose qui est fait à chaque fois, une loi européenne, il y a une réglementation, une réglementation des États pour mettre en application ou pas la mettre en application, ou la détricoter, ou la renforcer. Et c'est vrai que ça participe pas non plus à la lisibilité et puis à l'envie d'une Europe et puis à voir que c'est quelque chose qui nous sert et que c'est démocratique et que bon ça donne pas en tout cas une vision très flamboyante du niveau européen, quoi. Donc après moi j'ai pas vraiment de solution ou de fait plus que ça là-dessus, mais oui c'est des choses qu'on voit régulièrement, des choses qui sont activées au niveau européen et ensuite détricotées au niveau français, ou pire, qui sont qui sont bloqués complètement. J'ai un autre truc en tête qu'on a réussi un petit peu à assouplir cette dernière année. C'était sur les réglementations sanitaires au niveau des abattoirs, par exemple. Il y avait une réglementation européenne qui obligeait à certaines normes sanitaires dans les abattoirs. La France, pour appliquer ce règlement-là, a mis des obligations de moyens en place pour les abattoirs, ce qui faisait que finalement, il y avait un volume moyen de tonnage par abattoir quasiment pour répondre à ces objectifs-là, à ces objectifs sanitaires. Et on a réussi, dans la dernière loi agriculture-alimentation, à détricoter un petit peu ça pour qu'il y ait un assouplissement et qu'on puisse, c'est ce qu'on a gagné pour expérimenter sur les abattoirs mobiles, pour qu'on arrive à prouver que sur des petits abattoirs de proximité ou abattoirs mobiles, on puisse répondre à la réglementation européenne, mais pas en termes de moyens, en termes de résultats. Et ça, c'est une guerre régulière entre les États et puis l'Europe, c'est obligation de moyens, obligation de résultats, quoi.
On sait que la production de protéines animales est plus énergivore que la production de protéines végétales. Dans l'alimentation, c'est quand même une chose qui se dise. Et est-ce qu'il y a moyen au niveau de la politique agricole commune, sur quel levier peut-on jouer pour en arriver à effectivement avoir une nourriture moins énergivore?
Alors déjà, bon, je vais pas remettre en cause ce que tu viens de dire, mais les études qui sont faites, notamment sur les gaz à effet de serre ou sur la quantité d'eau qu'il faut pour produire un kilo de protéines d'origine animale ou d'origine végétale, les études sont pas toutes les mêmes. Si on, en général, quand on parle de l'eau, on parlait de 15 millilitres d'eau qu'il fallait pour un kilo de viande. Sauf que on compte l'eau qui tombe sur les prés, donc ça c'est pas cohérent. Donc il y a de fait une énergie dépensée plus importante sur l'élevage que sur les protéines végétales, mais qui est pas au niveau que voudrait le faire croire une partie des études. Et surtout nous l'enjeu qu'on voit, il faut sûrement réduire l'industrialisation de l'élevage ou l'intensification de l'élevage, mais il faudrait pas réduire le nombre d'éleveurs, et il faudrait pas non plus remplacer une industrialisation de l'élevage par une industrialisation de la production végétale. Et c'est là où il y a un gros nœud. On oublie souvent de dire OK, il faut produire moins de viande, il faut en manger moins, surtout dans nos pays dits développés. Mais par contre, il faut pas remplacer par une production végétale qui serait produite de manière industrielle, parce qu'on n'aura rien gagné du tout, quoi. Donc moi, je préfère poser la question de désintensifier et de désindustrialiser le modèle agricole globalement. Avec quand même cette réflexion de se dire on a sûrement poussé l'élevage certainement un peu loin, mais il faut peut-être moins d'animaux, mais il faut pas moins d'éleveurs, quoi. Et pour ça, il faut arriver à jouer encore une fois sur les leviers prix, sur les leviers rémunération et sur les leviers subventions, pour que ce soit moins intéressant demain qu'aujourd'hui d'avoir beaucoup d'animaux pour toucher beaucoup de packs, quoi. Donc ça c'est un des leviers pour désintensifier, par exemple. Mais après, ce qui me dérange dans ces études là c'est que on met tout l'élevage dans le même panier, qu'il soit intensif, industriel ou pastoral de montagne, parce que moi je suis sur une zone, par exemple, où on peut faire que de l'élevage, une zone à forte pente. On peut faire que de l'herbe. Qui est-ce qui valorise ces surfaces-là? C'est les herbivores. Donc qu'on n'aille pas me dire que ces élevages-là sont climatiquement et environnementalement non compatibles avec un développement, quoi. Et pour moi, ils sont complètement compatibles. Il ne faut pas qu'ils soient trop intensifs et encore moins industriels. Mais ils répondent aux enjeux de demain pour le climat et l'environnement. Mais à après, il faut arriver à discerner quel élevage on veut, comme il faut arriver à discerner quelle alimentation on veut, animale ou végétale. Quoi.
Quel est le positionnement de la Confédération paysanne sur les pesticides, sur le glyphosate en général?
Bah, le positionnement il est assez clair, hein, de la conf sur les pesticides globalement. J'allais dire le glyphosate, pour moi c'est on regarde le problème par un petit bout de la lorgnette. Ça a été une grosse discussion parce que ça a été une grosse discussion au niveau de la loi, mais nous l'enjeu c'est d'aller vers une sortie des pesticides. Pas forcément en 5 ans, j'en sais rien, je sais pas quel tempo on peut se donner, mais en tout cas de se dire que les pesticides, ça a été le moyen le plus abouti de pousser les paysans à être plus compétitifs économiquement. Parce que c'était impossible sur des grandes surfaces de faire autrement que sans pesticides. Parce que c'est un moyen économique de produire à moins cher, avec moins d'actifs, avec à moindre coût. Et si on veut sortir de cette dépendance-là économique, il faut encore une fois, retrouver des prix qui permettent de mieux rémunérer les paysans, et il faut trouver des leviers de transition. Et le gros levier de transition, pour nous, c'est la PAC. De dire la PAC, c'est un moyen d'accompagner les paysans à la sortie des pesticides. Donc pour ça, il faut se donner des moyens dans le second pilier, notamment pour aller vers des aides à la sortie des pesticides, vers des mesures agro-environnementales sortie des pesticides, vers une agriculture biologique qui se passe des pesticides de synthèse. Mais tout ça, ça se fera pas pour nous. Il y a plus de débat à se dire est-ce qu'il faut qu'on sorte des pesticides ou pas. Il faut en sortir. Le tout, c'est de se donner des moyens pour en sortir. Et de ce côté-là, on est complètement positionné différemment que les autres syndicats agricoles qui sont sur un discours de dire à la limite, il faut réduire les pesticides, mais aucun ne parle de sortie des pesticides. Nous, il nous semble qu'il faut en sortir. Mais pour pas en sortir et puis mettre les paysans encore en situation plus délicate économiquement, c'est des moyens à leur donner pour changer, quoi.
Je sais pas si tu as un mot de ce que tu dis là. Je te signale quand même que il y a encore pas longtemps, 3 ou 4 jours, le président de la GPB a tenu le même discours à Macron. Tu vois ce que je veux dire?
Non, il parle pas de sortir les pesticides de la GPB.
Il est allé dire, si on sort le glyphosate, et il va falloir que vous donniez de l'argent aux paysans qui ne vont pas pouvoir produire du blé à un coût compétitif.
Ah, mais...
je finis pas. Ton raisonnement, il est exactement le même. Non. C'est-à-dire que tu dis, il va falloir que la PAC compense le fait que des paysans ne puissent pas utiliser des pesticides, donc soient moins rentables. C'est un truc, franchement, c'est inentendable.
Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes questionnements que notamment sur le glyphosate, où il n'y a quasiment aucune impasse technique. Donc il n'y a quasiment pas besoin, j'allais dire presque, d'accompagner les paysans à s'en passer, parce que la plupart pourraient s'en passer. Mais sur d'autres pesticides, je vais donner un exemple tout simple. Fruits et légumes, moi j'ai un exemple d'un paysan dans le sud-ouest, abricots, pêches, nectarines, qui par les prix de vente de ses produits et par les importations notamment d'Espagne, n'arrive plus à se rémunérer, n'arrive même plus à réfléchir, à envisager une sortie des pesticides. Il en utilise le moins possible. Mais pour sauvegarder un minimum de production, il est obligé d'en utiliser. C'est des productions assez spécifiques. Malgré ça, il n'arrive pas à être rémunéré. Donc il est en train d'arracher ces arbres-là. Si tu donnes pas à ces paysans-là des moyens économiques, soit de régulation par rapport à des importations qui sont non justifiées ou non pas sur le même niveau social ou environnemental, avoir des moyens de se protéger par rapport à ça. Si tu lui donnes pas ça, Et si tu lui donnes pas un levier économique pour lui permettre d'avoir des moyens pour faire évoluer sa ferme, faire évoluer ses pratiques, eh ben il arrêtera. Il arrêtera et puis on aura ces produits-là qui seront faits de manière encore plus pourrie par les Espagnols ou les Hollandais dans sous des serres industrielles.
Non, ça c'est un faux discours. Si tu donnes aux gens en leur disant finalement tu leur donnes de l'argent pour dire alors qu'ils ont eu accès au marché tout en amenant des inconvénients importants pour la société globalement et pour l'environnement. Et aujourd'hui, il faut encore leur donner de l'argent pour qu'ils puissent se tenir, soit en continuant à le faire en trouvant des nouvelles pratiques, soit en arrêtant. Excuse-moi, mais c'est...
Mais dans le même temps, on demande à ces gens-là, on est quand même pas sur un schéma où on va accepter de subventionner n'importe qui de n'importe quelle manière pour le faire changer. On est quand même, quand tu écoutes ce que j'ai dit sur les aides à l'actif, sur les aides sur les premiers hectares, sur le plafonnement, la dégressivité, ça, c'est tout un ensemble, la PAC. On peut pas le voir soit que le côté aide à l'hectare ou architecture.
Il a soulevé le problème du glyphosate et des pesticides. Il a pas soulevé.
Mais on ne peut pas voir le système des pesticides ou du glyphosate comme le système de la transition agricole ou comme le système on peut pas regarder le truc par le petit bout de la lorgnette. La PAC, elle est globale. L'agriculture, elle est globale. Notre projet d'agriculture paysanne, il est global. Il englobe des enjeux sociaux, environnementaux, d'autonomie, de qualité des produits, de dynamique des territoires. Et si tu regardes un enjeu par rapport à un autre, oui, bah tu pourras toujours dire que celui-là est pas satisfaisant. Mais l'idée à la conf, c'est d'essayer de voir la globalité de la chose, la globalité de la question. Et il me semble que si on veut faire évoluer sur les pesticides, un des moyens, c'est que les paysans aient du revenu quand même. Si les paysans n'ont pas de revenu, ils pourront pas changer. Alors je dis pas qu'il y en a qu'il faut pas qu'ils désintensifient, qu'il faut qu'on démantèle certaines fermes. On va pas demander des aides pour désintensifier sur des 10 hectares de serres à tomates dans l'Ouest qui sont en train de se monter. On n'est pas dans ces questionnements-là. On est dans les questionnements de gens qui sont dans des schémas d'agriculture paysanne, qui ont des réflexions sur l'autonomie, sur la qualité de leurs produits, mais même ceux-là ont du mal à envisager une sortie des pesticides parce que pas de revenus, parce que pas d'aide de la PAC, sur les fruits et légumes, pas d'aide de la PAC, sur les petites surfaces, pas d'aide de la PAC. Donc, est-ce que on est capable, globalement, le monde paysan et globalement la société, est-ce qu'on est capable de dire, on oriente les aides vers ces gens-là, même si des gens ont fait des choix à un moment donné qui étaient peut-être pas les bons? Mais est-ce que ces choix, c'est de leur fait à eux, ou est-ce que ces choix, c'est le fait d'une politique agricole européenne et française qui leur a dit « Produisez moins cher, produisez plus, produisez n'importe comment, vous inquiétez pas, on va vous subventionner. » Mais est-ce qu'ils avaient le choix? Alors je dis pas qu'ils ont fait les bons choix, je dis pas que c'était qu'il fallait pas faire autrement. Bien sûr qu'il fallait faire autrement, on a été nombreux à faire autrement. Mais ceux qui n'ont pas eu le choix ou qui n'ont pas eu la capacité de réfléchir ou la capacité de se retourner, aujourd'hui tu leur dis quoi? Démerdez-vous et puis vous êtes tous pourris et vous avez suivi ce que vous a dit l'Europe pendant 10, 15, 20, 30 ans. Ben oui, ils ont fait mal. Mais comment est-ce qu'on les aide à désintensifier? Comment est-ce qu'on les aide à retrouver de l'autonomie sur leur ferme? Comment est-ce qu'on les aide à réinstaller du monde?
On leur a donné quelque chose.
Je sais bien, je suis assez d'accord avec toi.
Et ils l'ont fait sans que personne ne les aide, ni par le bio, ni par rien du tout. Et ceux qui l'ont fait, ils n'ont rien eu.
Tu prêches un convaincu, moi. Enfin, on touche un peu moins de 30 000 euros de la PAC pour deux actifs. On n'est pas en bio, mais on n'utilise pas de pesticides. Enfin, on est sur des surfaces à l'herbe. On n'a jamais eu d'aide à la surface importante parce qu'on n'a pas fait le choix de mettre des cultures, etc. Enfin, forcément, ben oui, je suis assez d'accord. Oui, bien sûr, c'est injuste. Mais est-ce qu'à un moment donné, on est prêt à accompagner une partie des paysans qui est prêt à changer? Est-ce que les politiques doivent être prêts à les accompagner ou est-ce qu'on les laisse de côté, quoi?
Les pesticides, existe, ça fait 20-30 ans que la chambre d'agriculture, le technicien agricole, il te dit tu fais ça, tu fais la dépôt, surtout tu mets le produit. Parce que nous, on a des emplois, on a du chimique qui fabrique le produit. On ne peut pas faire autrement. Et l'agronomie, elle a disparu, quoi. Et aujourd'hui, ben, il faudrait qu'il y ait plus de moyens aussi vers des gens qui ont fait des recherches, qui ont trouvé, même, comme tu dis, qui ont fait par eux-mêmes, plus fort des fois comme faisaient les grands-parents, etc. Et ça, il faut essayer de réinventer l'agriculture vers ces solutions-là. Et si, et ça, soit tu le fais par toi-même, comme tu dis, il y a 20 ans, on a fait aussi, moi c'est pareil, 26 vaches, pas beaucoup, que à l'air, que ils aient des vaches, pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, pas de tout ça, et on n'a rien du tout par rapport à ça. On n'a rien du tout. Et les prêts, ça serait plus juste que ceux qui font comme ça, et un peu plus. Et que les autres font un peu moins. Et que peut-être que si on un peu plus à ceux qui font comme ça, il y en a un peu plus qui font comme ça. C'est ça, je pense, que tu veux que tu comprennes la réponse. Il faut orienter ça vers ça. Et l'agronomie, c'est un peu ça aussi. Des solutions, ça existe. La rotation des sols, ça existe. Il y a des choses à faire. Mais ça a été balayé. Il y a une époque, les chambres d'agriculture, ils disaient le fumier, ça brille. Il faut mettre de l'engrais chimique par-dessus, parce que le fumier, ça brille. Alors qu'on s'est prié qu'une fois que le fumier, ça suffit. Et ça a été la politique pendant 30 ans. Donc ça, il faut en sortir. Mais voilà, c'est d'accord, on le dit, mais on est 27%. Voilà.
Est-ce que la sortie de la PAC n'est pas envisageable, à savoir la suppression de tout ce grand bordel et sans toucher en augmentant les revenus, le juste prix pour l'agriculteur et la traçabilité des produits qui sont vendus. Est-ce que c'est un peu compliqué à imaginer pour l'avenir, pour dans 20 ans, pour dans 10 ans? Parce que, de toute façon, les gouvernements ne pourront pas toujours supporter cette charge-là. Et après ça, il faut éviter toujours les plaintes des agriculteurs qui réclament d'ailleurs la vérité des prix. Et moi, je suis d'accord pour payer un peu plus cher, d'autant plus qu'on paye deux fois. Hein. On paye une fois à l'achat du produit, puis après ça, on paye une deuxième fois en payant ses impôts. Et ça, on n'en tient pas compte. Dans votre exemple, dans votre première image d'ailleurs, le billet de 100 euros, il restait 6 euros pour l'agriculteur pour son travail. Mais ça, c'est. Est-ce que là-dedans, vous incluez ce qu'il a pu percevoir de la PAC pour déterminer ce prix-là? Ben non, je suis sûr que non. Hein. Alors, ce qui est donné d'un côté par la PAC, on considère que ça ne rentre pas dans le prix. Dans la rentabilité du producteur, ça sert peut-être à payer son nouveau tracteur, ça peut-être, mais...
Après, c'est surtout une majeure partie de la valeur ajoutée qui est accaparée par d'autres. Quoi. Ça, c'était l'enjeu qu'on a essayé de poser pendant les états généraux de l'alimentation, que la valeur ajoutée, s'il n'y en a que 6 aux paysans qui restent, c'est qu'il y en a une grosse partie qui part ailleurs. Elle part à la grande distribution, elle part à la transformation. Et de ce côté-là, le combat, j'allais dire, on a essayé de le mener, on essaie toujours de le mener, mais il y a aucune aide des politiques, j'allais dire, parce que la remise en cause du marché, la remise en cause des profits des grands industriels ou des grands distributeurs, c'est pas à l'ordre du jour, donc. Donc aujourd'hui, la répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire, elle n'est pas l'objectif, elle n'est pas qu'elle soit contrebalancée. Mais après, nous, quand on a commencé à réfléchir à la future PAC, on s'est dit, un peu comme tu viens de dire, dans l'idéal, si on a une régulation, si on a des protections, parce que on parle de protectionnisme, c'est un gros mot, mais dans le mot protectionnisme, il y a quand même la protection, et puis se protéger, c'est quand même pas anormal. Donc quand on parle de protection, ça devrait être des choses qui puissent être mises en place au niveau européen, mais même au niveau des États. Et avec des mécanismes, on doit pouvoir arriver en effet à faire remonter les prix, sans forcément tout faire peser sur les consommateurs. Il faut aussi accepter que le prix à la consommation augmente certainement, mais si, comme tu dis, s'il devait augmenter, mais qu'en contrepartie, il y ait moins à fournir pour la PAC ou qu'il y ait moins à fournir pour dépolluer ou pour sa santé parce que ou pour la disparition de son territoire parce que les services publics disparaissent, etc. Enfin, c'est tout un ensemble. Mais aujourd'hui, on est loin de ça quand même. On est loin de ça, mais on a essayé de l'imaginer. On a essayé de l'imaginer, de se dire la future PAC, si on avait des prix, ben si on avait des prix, clairement, il faudrait beaucoup plus d'argent sur le second pilier, qui est les aides environnementales, qui est le changement de modèle, qui soit un modèle avec plus d'actifs. Et on n'aurait sûrement pas besoin de 9 milliards d'euros. Il y aurait possiblement besoin de moins. Moi, si on me paye de mon prix de mon produit, j'ai pas besoin de la PAC. Mais aujourd'hui, énormément de paysans sont tributaires de la PAC pour leurs revenus. Dans une majorité de production, ce que touche le paysan de la PAC, c'est égal à son revenu. C'est ça qui fait son revenu exclusivement. Donc, si on lui enlève ça, il crève, quoi. Donc, dans l'idéal, forcément, qu'on aimerait mieux avoir des prix que des primes. Mais pour ça, il faut que les politiques soient... et que les citoyens influent sur les politiques, et que les politiques aillent sur des mesures contraignantes par rapport au marché, par rapport au libéralisme, par rapport au capitalisme. Et aujourd'hui, ça paraît un petit peu mal parti, quoi.
Ouais, mais on se bouffe quand même la queue. Parce que sur les marchés, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les produits étrangers qui arrivent, qui sont nettement moins chers que le produit français, et les Français achètent ces produits-là. Donc, c'est un petit peu ambigu, tout ça, quand même. Je trouve qu'on ne devrait pas trouver... Les produits français devraient soit baisser, encore, soit baisser, ou bien et l'agriculteur être mieux rétribué.
Après, je suis un peu gêné, produits français, produits pas français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus quel type d'agriculture c'est.
Tout ce qui est maraîchage.
Oui, mais des fois, on peut entendre les GIA qui disent manger français, quoi. Bon, pour moi, manger français, ça veut rien dire. C'est quel type d'agriculture on veut soutenir et quel type d'alimentation on veut avoir, quoi. Et si on a une agriculture de qualité à taille humaine et qui respecte l'environnement, j'allais dire, peu importe qu'elle soit française ou italienne, si on est dans un schéma qui nous permet à tous d'être rémunérés par nos produits et puis d'avancer vers cette idée de monter en gamme et puis d'être moins dépendant des aides, quoi. Mais bon, encore une fois. Voilà, le contexte qu'on avait posé, enfin l'idée qu'on avait posée d'une PAC idéale, je vais pas dire qu'on l'a rangée au placard, mais en tout cas quand on va négocier avec Bruxelles ou avec le ministère, aujourd'hui on est obligé de négocier sur des volumes de PAC et puis sur des subventions qui orientent ou non une transition agricole. Et c'est pas satisfaisant, mais pour ça, il aurait fallu déjà qu'on arrive à gagner quelque chose sur la loi agriculture-alimentation au niveau français pour arriver à contraindre, que les politiques arrivent à contraindre les industriels, par exemple, à partager la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on n'y est pas arrivé. Donc ça veut dire que même au niveau français, on n'arrive pas à mettre des mécanismes en place pour mieux rémunérer le monde paysan. Donc, si on n'y arrive pas, il va falloir trouver des mécanismes ou encore des béquilles pour aider les paysans à évoluer. Et puis après, voilà, l'objectif est que, encore une fois, la PAC soit pas un budget et une béquille, mais soit un moyen d'évolution. Et à long terme, l'objectif, bien sûr, c'est que ce moyen, il soit réduit de plus en plus parce que on fait un peu des vases communicants et on est moins en moins payé par les subventions parce qu'on réoriente sa production vers des productions qui sont plus en attente du consommateur. Si c'est en attente du consommateur, on peut espérer qu'il sera peut-être prêt à payer un peu plus cher. Si lui paye un peu plus cher et que les politiques arrivent à mettre des mécanismes qui font que ce qu'il paye, on arrive à en récupérer une bonne partie quand même. Et ben petit à petit, on peut arriver à espérer que ben les subventions en aura moins besoin. Ça, c'est dans l'absolu, quoi.
Alors peut-être une dernière question, mais je veux dire, il y en a certains qui discutent comme ça
petit peu par-ci par-là. On peut aussi finir les discussions autour de Pôle
Abraham. Sur une petite bière, ouais.
Et l'heure avance quand même et que pas mal de gens retravaillent demain. Mais dernière question, donc on va dire là.
T'as raison, c'est vrai que du revenu il y en a, il en reste pas à la fin, parce que clairement le paysan aime mieux réinvestir et pas payer d'impôts, parce qu'on lui a expliqué depuis tout petit qu'il faut pas payer d'impôts, il faut pas payer de charges sociales parce que c'est une charge. Après on va venir pleurer parce qu'on n'a pas de retraite à la fin, mais c'est tout un mécanisme de pensée. Moi j'arrête pas de dire, chez nous, même en comté où on est bien payé, les fermes s'agrandissent. Les gens n'ont pas besoin de plus. Ils n'ont pas besoin de plus de vaches. Ils n'ont pas besoin de plus de surface. Ils n'ont pas besoin de produire plus parce que on est bien rémunéré. Et moi, je m'interroge. Qu'est-ce qui les pousse à s'agrandir encore et à vouloir en faire plus? Ben moi, j'ai deux idées. Il y a cette idée-là, l'idée de dire, il y a la vision du voisin, de dire, ben, si tu grandis pas, si tu grossis pas plus, eh ben, t'es pas un bon paysan. Et le fait de manger son voisin et d'être de plus en plus gros, c'est un signe de vitalité du monde agricole. Et puis, moi, il y a aussi la valorisation que je vois par la quantité de travail à abattre. Et, un bon paysan, c'est un paysan qui travaille beaucoup. Et à la limite, s'il n'est pas rémunéré à la fin, mais c'est pas grave. Il est courageux, il passe du temps au boulot et il a un gros tracteur et il a bouffé son voisin. Donc, il a une bonne image par rapport à l'ensemble de la profession agricole, quoi. Et je suis assez d'accord qu'il faut arriver à changer ce mécanisme de pensée. Ça se joue dans les écoles, dans les écoles d'agriculture, dans les BTS, dans les BTA, pour aller voir. Nous, dans le Jura, on va en BTS, on leur fait faire des diagnostics agriculture paysanne pour essayer de leur faire comprendre que, ben, les questions d'autonomie, les questions de revenus, les questions de temps de travail, les questions d'environnement, c'est aussi des questions qui peuvent se poser, et puis que c'est pas tabou, et puis qu'il n'y a pas que la question de la taille de la ferme, du nombre de chevaux que tu as sous le capot, qui vont faire que tu seras valorisé, quoi. Mais bon, il y a du boulot à changer. Là, c'est un boulot de changer les consciences, quoi. Mais je suis assez d'accord avec toi, il y a un gros boulot de ce côté-là, et il y a un gros enjeu.
En te remerciant pour tes informations, parce qu'elles ont été très bonnes au départ, et puis ensuite à la discussion très vivante. Merci.
Ben, de rien. Avec plaisir.